7 milliards de voisins, Emmanuel Bastide, Romain Dubrac.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Nous sommes vendredi, c'est le jour de l'éducation. Et nous revenons sur l'actualité en France où la question de l'éducation est de plus en plus tendue, avec notamment les nouvelles restrictions budgétaires annoncées pour la rentrée de septembre. Les suppressions de postes touchent aussi les collèges des banlieues difficiles. Alors comment, dans ce cas, endiguer l'échec scolaire? Comment continuer de croire à un idéal d'équité républicaine? Nous allons en discuter avec Chantal Aounou et Aymeric Patricot, qui sont tous deux professeurs dans des quartiers sensibles, dit-on pudiquement. Aymeric Patricot, vous publiez Autoportrait du professeur en territoire difficile. Marc Douer, vous êtes également avec nous. Vous êtes président de l'Observatoire des zones prioritaires, les ZEP, qui fêtent cette année leurs 30 ans. Mais est-ce un anniversaire dont il faut se réjouir, alors que le bilan des ZEP est jugé contrasté, que le gouvernement affiche une remise en cause des moyens financiers en permanence? Si vous avez envie de réagir pendant l'émission, l'antenne est bien sûr toujours ouverte. Il y a un numéro de téléphone. C'est le 33 1 56 40 21-71. Mais tout de suite, le rendez-vous incontournable, comme chaque vendredi, la chronique d'Amélie Niard, les infos pratiques de l'éducation. Attention, bourse d'études en vue cette fois-ci. Bonjour Amélie Niard.
Bonjour.
Aujourd'hui, les femmes scientifiques sont à l'honneur avec les bourses UNESCO L'Oréal. Alors attention, ce sont pour les femmes et la science, pas pour des étudiantes, hein, mais vraiment de jeunes chercheuses confirmées.
C'est ça. Et d'ailleurs, ces bourses, je vous en ai déjà parlé dans cette chronique, peut-être que vous les connaissez déjà, elles commencent à être vraiment connues dans le monde entier. Et elles récompensent justement des chercheuses, uniquement hein, des femmes chercheuses en sciences dures, quel que soit leur pays, dans le monde entier. Chaque année, 15 bourses sont attribuées, 3 pour chaque continent. Les boursières touchent une très belle enveloppe pour financer leurs recherches. Elles bénéficient d'une formation à Paris. On leur apprend à présenter leurs recherches, à répondre aux journalistes ou encore à déposer des brevets pour protéger leur travail. Et puis, les lauréates sont également invitées à de nombreuses conférences internationales. Bref, ces bourses sont de véritables accélérateurs de carrière.
Alors, la présélection des boursières est assurée par l'UNESCO via ses commissions nationales qui sont basées dans tous les pays membres.
Hein. Donc, à chaque fois, comme toujours, quand les bourses sont gérées conjointement avec l'UNESCO, si vous êtes intéressé, vous devez vous adresser à l'antenne locale de l'UNESCO dans votre pays. Et ensuite, chaque pays peut présenter pour cette bourse une sélection de 4 candidates au maximum. Attention, seules les chercheuses de haut niveau sont donc éligibles à ces bourses. On peut postuler uniquement si on est en train de terminer son doctorat ou si on l'a déjà obtenu. Et dans les faits, depuis la création de cette bourse, toutes les boursières étaient déjà titulaires de leur doctorat lorsqu'elles ont déposé leur candidature et lorsqu'elles ont obtenu la bourse.
D'accord, donc vraiment chercheuses confirmées. Autre condition pour postuler à ces bourses UNESCO L'Oréal, pour les femmes scientifiques, il faut être âgée de 35 ans au maximum.
Et c'est une condition qui pose problème sur le continent africain.
C'est pas la première fois que vous nous le dites d'ailleurs. Pour d'autres bourses aussi, il y a des limites.
Oui, mais là, j'ai vraiment identifié le problème pour cette bourse spécifique parce que j'ai contacté plusieurs responsables de l'UNESCO en Afrique francophone et tous m'ont dit que les candidates ne se bousculent pas. Il y a même certains pays où il n'y a tout simplement aucune candidate, alors que l'appel d'offres est ouvert depuis mars et qu'on a jusqu'à fin juin pour déposer son dossier de candidature. Selon un des responsables de l'UNESCO avec qui j'ai discuté, le problème, c'est vraiment cette limite d'âge, 35 ans, puisque de nombreuses femmes sont obligées d'interrompre leurs études quelques années lorsqu'elles ont des enfants, pour les élever quand ils sont petits, etc. Donc elles reprennent ensuite leurs études, mais elles arrivent au doctorat trop âgées pour postuler et pour obtenir ces bourses.
Donc clairement, les conditions de candidature ne sont pas très adaptées aux réalités du continent africain. Hein.
Ben, c'est la question que j'ai posée justement à la responsable des bourses chez L'Oréal, à la Fondation L'Oréal. Elle m'a dit qu'en gros, deux thèses s'affrontent. Ceux qui pensent qu'une scientifique brillante a forcément déjà décroché son doctorat à 35 ans, et ceux qui disent qu'il faut reconnaître le travail de ces femmes qui sacrifient leurs études pour des raisons familiales et qui réussissent à revenir au plus haut niveau, puisque pour le coup, c'est quand même pas évident. Bonne nouvelle, les conditions de candidature devraient être assouplies dès l'année prochaine. Voilà. Affaire à suivre.
Il faut dire que vous faites le forcing à chaque fois que vous parlez de ces bourses pour les limites d'âge. Si vous êtes intéressé, en tout cas vous qui nous écoutez, par ces bourses UNESCO L'Oréal pour des femmes scientifiques, unesco.org, c'est le site de l'UNESCO. Bien sûr, tous les liens sont directement affichés sur notre page RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins. Merci Amélie Niard.
Ah ouais, tiens, c'est un bon plan.
Nous passons à l'enseignement dans les banlieues françaises. Alors, banlieue française, d'ailleurs, pas seulement banlieue, un quartier difficile. Chantal Aounou, Émeric Patricot et Marc Douer, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Comment les uns et les autres, vous vivez en ce moment les annonces gouvernementales? C'est la xème année, d'ailleurs, qu'on a des suppressions de postes d'enseignants pour la rentrée prochaine. 16 000 postes supprimés. Marc Douer.
C'est un mouvement d'abord de détérioration du service public, mouvement continu, qui arrive en contradiction avec ce qu'on a pu tous constater. Je prends l'exemple de l'évaluation internationale PISA de décembre, qui montrait que les résultats de la France sur les mathématiques et français étaient très très moyens, et surtout étaient marqués par des inégalités extraordinairement marquées dans les territoires. Et donc ça nécessitait un investissement très important. Deuxième remarque, et j'arrêterai là-dessus, nombre de rapports en France mettent l'accent sur la nécessité de porter le projecteur et les moyens sur les premiers apprentissages. Or là, c'est l'école élémentaire, l'école maternelle qui sont complètement remises en cause alors qu'il y a une augmentation d'effectifs. Donc, on hypothèque l'avenir.
35 000 élèves de plus au collège, démographiquement. Alors, c'est intéressant parce que vous citez justement les évaluations internationales qui comparent tous les pays, mais le ministère de l'Éducation nationale se sert aussi de ces évaluations internationales pour dire, vous voyez bien qu'avec tous les moyens qu'on met, on n'est pas bon, ça n'est pas qu'une question de moyens.
C'est certainement
comme
pas qu'une question de moyens.
Chacun lit les études et les voit.
C'est certainement pas qu'une question de moyens. C'est une question d'objectif. C'est-à-dire que est-ce qu'on a l'ambition de conduire l'ensemble d'une classe d'âge à des situations de réussite éducative et scolaire qui peuvent être très diverses, ou bien est-ce qu'on a simplement l'ambition de reproduire une élite? On est dans le cas de ce que j'appellerais l'élitisme républicain qui profite à l'élite et qui ne profite pas du tout à la République.
Vous, en tant qu'enseignant, Chantal Aounou, par exemple, est-ce que vous avez le sentiment que ces restrictions budgétaires, depuis combien d'années maintenant, Marc Douer?
Depuis 2003 et ça s'est accéléré depuis 2007.
Avec des suppressions de postes consécutives chaque année.
Chaque année, oui.
Est-ce que vous avez le sentiment, Chantal Aounou, vous, en tant que prof de lettres à Sarcelles, dans une banlieue pas franchement tranquille, en tant qu'enseignante, je veux dire, est-ce que ça a des répercussions directement sur votre quotidien en tant qu'enseignante? Et le quotidien des élèves, bien sûr.
Alors déjà, je fais une petite précision, je suis professeure d'histoire-géographie.
Pardon, histoire-géographie, Émeric Patricot qui est professeur de lettres.
Et bien évidemment, je pense évidemment ça a des répercussions, mais pour moi le problème est en fait beaucoup plus complexe. Parce que la France est traversée par une crise économique qui est très grave. Les parents sont de plus en plus précarisés, touchés par la crise, ce qui a bien évidemment des répercussions sur les moyens dont ils peuvent disposer pour élever leurs enfants. Et ça a aussi des répercussions sur leur disponibilité à prendre en charge l'éducation de leurs enfants. Donc, et le choc supplémentaire, effectivement, par rapport à ça, c'est que cette année, par exemple, on s'est rendu vraiment compte que on subissait des coupes budgétaires drastiques. Comme on n'en avait jamais connu.
Mais c'est-à-dire, matériellement, comment ça se traduit pour les gens qui ne sont pas dans votre établissement? Expliquez-nous.
Comment ça se traduit pour les gens qui ne sont pas dans notre établissement? Comment ça peut se traduire? Écoutez, ça se traduit par des situations de panique.
Il y a des profs absents qui ne sont pas remplacés, par exemple?
Des profs absents qui ne vont pas être remplacés, des profs qui partent à la retraite, enfin, qui ne seront pas remplacés.
Et puis le nombre d'élèves qui augmente.
Émeric Patricot. Vous dites des situations de panique. Des situations de panique, vous disiez.
Mais des situations de panique pour les enseignants, bien sûr. Parce que, par exemple, dans notre collège, certains enseignements, dont l'histoire-géographie, perdent des heures. C'est la même chose en français, c'est la même chose en anglais, et ça veut bien évidemment dire que on va augmenter le nombre d'élèves en fait dans les classes, ce qui est effectivement terrible quand on connaît les difficultés des élèves.
Alors augmenter le nombre d'élèves par classe, ça c'est l'éternel débat. En réalité, c'est très peu. sur une classe. C'est un ou deux élèves de plus.
Oui, vous savez, on parle beaucoup du coût de l'éducation prioritaire en France. Les écarts, vous connaissez les écarts de moyenne par classe ? Les écarts entre les écoles du cœur de l'éducation prioritaire, des réseaux ambition réussite, et les écoles normales, c'est de 2 élèves par classe. On est loin du plan Marshall, hein, 2 élèves par classe. Or, là maintenant...
C'est-à-dire que vous avez le droit à avoir 2 élèves de moins par classe.
Hein. Alors après, vous organisez pédagogiquement...
Comme un immense privilège,
c'est ça ? Comme un immense privilège. Après, vous organisez comme vous voulez, au sein de l'école. Mais ça laisse très peu de marge.
Oui, concrètement, moi, ce que je vois dans mon lycée, donc je suis dans un lycée à la Courneuve, les filières technologiques, donc les classes de STG, sont à 35. Il y a 35 élèves par classe. C'est tout simplement ingérable.
Ah oui, bien sûr.
Faut le dire concrètement, c'est quasiment impossible de gérer une classe de 35 élèves, tous en difficulté, quasiment.
Même si au lycée, on dit que les difficultés des élèves sont moins graves parce qu'ils ont survécu au collège.
Oui, moins graves, sauf peut-être dans les filières techniques et professionnelles.
Ça dépend parce que dans quelle filière sont-ils au lycée ? S'ils sont en classe filière S ou ES, voire L, encore que L sert beaucoup d'orientation par l'échec, c'est un peu différent de ceux qui n'ont pas passé le SAS en fin de seconde, qui sont orientés vers les filières.
Oui, et dans mon lycée, c'est simple, les classes de S, c'est-à-dire les meilleurs élèves, entre guillemets, sont des classes parfois de 20, et les classes de STG qui réclameraient, eux, plus de moyens, sont 35. En fait, je pense que la classe politique, c'est très étonnant, fait preuve d'une forme d'aveuglement, c'est-à-dire qu'ils laissent complètement pourrir ou végéter...
Plus que d'aveuglement, c'est-à-dire qu'on vous dit clairement, ça n'est pas une question de moyens, la qualité de l'éducation.
C'est peut-être un choix, quand même.
Alors, ceci dit, Marie Patricot, la question des moyens, ça n'est pas ce qui sous-tend votre récit du quotidien, un autoportrait du professeur en territoire difficile. On va y revenir dans quelques instants.
Darwin avait raison, je ne suis plus un loup. Je ne suis plus qu'un chien fou qui garde la maison. C'est mon évolution, je me suis trouvé un nom. Féloche est un poisson. Darwin avait raison. À la branche suspendue aux questions. Rien dans les poches, rien dans les manches. Darwin avait raison. Féloche est un poilu qui jette son dévolu sur la femme de tête. Hier j'étais plus bête, demain je serai moins bon. J'ai qu'une tête et demain. Darwin avait raison. Darwin avait raison, j'ai quelque peu changé. Changé de religion, lunettes et pantalons. J'ai travaillé au charme, fait la révolution. Fait le chat, pris le zar. Darwin avait raison.
Darwin avait raison chez 7 milliards de voisins sur RFI. Émeric Patricot, vous publiez un livre autoportrait du professeur en territoire difficile. Alors vous n'êtes pas le premier, hein, faut le préciser auprès de nos auditeurs.
Ah oui, une littérature fourmillante à ce propos-là.
Ah oui, au moins fourmillante de profs qui ont éprouvé le besoin de coucher leur expérience sur le papier. Marc Douer, d'ailleurs, parfois, je sais que ça vous énerve tous ces profs qui découvrent.
Oui, c'est pas du tout pour préjuger le contenu de l'ouvrage d'Emeric, mais certains passent une année dans une zone d'éducation prioritaire et après commettent un ouvrage. Moi, ça fait 25 ans que je suis en ZEP. J'ai travaillé 31 ans à Nanterre en banlieue populaire, donc pour les années en l'air. Vous imaginez, ça ferait des tomes, c'est presque les mémoires de Saint-Simon.
Mais il faut dire qu'il y a un choc de l'arrivée aussi. La première année en elle-même peut constituer...
Justement, alors ceci dit, vous n'avez pas un an de ZEP, hein, vous avez plutôt 5-6 ans. Votre parcours est décrit laconiquement au dos du livre. 36 ans, diplômé d'HEC, agrégé de lettres modernes, enseigne aujourd'hui dans un lycée de la région parisienne, donc à La Courneuve, et à Sciences Po. Excusez-moi la brutalité de ma question, mais qu'est-ce qu'un diplômé d'HEC, donc grande école de commerce, est venu faire dans la galère des banlieues au lieu d'être sur les marchés financiers?
C'était tout simplement une question de vocation. J'ai fait HEC, mais je me suis rendu compte que j'avais pas d'amour pour les affaires.
Pour faire plaisir à vos parents, ou quoi?
Oui, pour le dire franchement, oui, c'est ça. Et puis, il y a un moment où c'est l'appel de la littérature, moi, qui a joué. Je voulais travailler dans un domaine lié à la littérature. J'écris des romans par ailleurs. Bon, j'ai essayé de travailler un peu dans l'édition, et puis je me suis rendu compte que prof, c'était un métier qui me plaisait beaucoup. J'aime bien le contact avec les ados. Donc voilà, et puis c'est un métier, il faut le reconnaître, qui laisse un peu de temps, donc ça a compté. Et c'est un métier qui est magnifique, pour peu que les moyens soient là pour qu'on puisse enseigner dans des bonnes conditions.
Ouais. Alors votre livre est quand même le récit, effectivement, vous le disiez, d'une grande claque, d'un choc culturel entre vous, qu'on devine l'excellent élève depuis le berceau, qui avait toujours su à quoi servait l'école, et puis un autre monde, qui lui ne sait pas très bien, dans le fond, à quoi sert l'école.
Bah, c'est exactement ça. On passe un concours d'élite. Il y a des milliers de candidats pour 100 places, à peu près.
Je parle
de l'agrégation. Pendant des années, on bosse sur des textes du XVIe siècle, du Moyen-Âge. On connaît par cœur l'histoire de la grammaire, de la langue. On connaît tous les mots de la langue française. Je caricature un peu. Et puis, on est lancé devant des classes sans aucune préparation.
Vous avez quand même bénéficié d'un an de stage.
J'ai bénéficié depuis la réforme, qui est une très bonne idée. Sur papier, d'ailleurs, les formateurs sont très sympathiques. Mais je pense qu'on est dans le déni total de ce qu'est une classe difficile. C'est-à-dire, en une année de formation, pas une seule fois n'a été évoquée la question de l'autorité.
Et quand même, vous aviez lu justement les autres livres,
les autres récits.
Non, je ne soupçonnais pas que ça pouvait être chez un libraire lire le quotidien des autres profs. Non, j'avais autre chose à faire.
Moi, je préparais les concours. Je bossais des textes du XIIe siècle. Personne m'avait dit, oh là, fais attention, ça risque d'être un peu difficile.
Mais comment aujourd'hui on peut dire, j'ai découvert, je ne savais pas que c'était.
Je pense qu'on est en train de lever le voile un peu. Je pense qu'on dit des choses aujourd'hui qu'on ne disait pas il y a 10 ans.
Alors, une chose est sûre, c'est que votre premier collège, c'est Vitry-sur-Seine. Et le premier jour, la principale du collège vous avertit, je la cite hein, dans votre livre, « Votre travail consiste à tenir vos classes. Ne donnez pas de travail à la maison, cela ne servirait à rien. Vous vous en rendrez compte assez vite. »
Oui, alors j'étais un peu déstabilisé, mais après coup, j'ai donné raison. C'est vrai que c'est... Il faut dire des choses. Les classes que j'ai vues à Vitry... j'ai jamais réussi une seule fois à faire travailler un élève chez lui.
Et en classe
Mon seul... ma seule ambition, c'était qu'une heure de cours se passe à peu près correctement, c'est-à-dire sans chahut trop pénible, si arriver à en faire travailler 2, 3, 4 éventuellement au maximum, et puis essayer de contenir l'agressivité ambiante.
Chantal Aounou,
c'est ce que j'ai vécu pendant 2 ans dans plusieurs collèges.
Chantal Aounou, vous, comment ça se passe à Sarcelles, en histoire géo, au collège?
Bon, moi,
Vous donnez du travail à la maison?
Moi, je donne du travail, effectivement. Alors, je pense que je suis un peu comme
mon collègue.
Je pense que la première année à Sarcelles, j'ai beaucoup pleuré. Je pense que c'est vraiment, vraiment un choc culturel énorme. On nous apprend énormément de choses à l'université. Et en plus, bon... moi, je dis j'étais docteur. Il est vrai que j'étais un peu déboussolée. Mais au final, je me suis posé la question de savoir si mon enseignement était bien adapté. Ce qui oblige à se déstructurer soi-même. Et de penser autrement l'enseignement.
On va y revenir, puisque vous menez notamment un projet théâtre très intéressant avec vos élèves. Vous restez avec nous, Marc Douer, Chantal Aounou et Aymeric Patricot. On va rendre l'antenne pour le flash sur RFI. On se retrouve juste après. 7 milliards de voisins, profs en territoire difficile. Le rendez-vous, c'est dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant.